Alors bonjour à tous, je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui le sujet des ombres de Christ. C'est un petit peu un hors-série, c'est planifié mais c'est un peu un hors-série par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais en fait je pense que c'est un des thèmes qui moi personnellement me fait le plus vibrer. Et donc ça me fait très plaisir de le partager avec vous, de pouvoir essayer de vous emmener un petit peu dans cette réflexion. Et aussi voilà, ma prière c'est vraiment qu'on soit encouragés, que ce soit vraiment aussi l'Esprit de Dieu qui nous parle à travers ces quelques histoires que j'aimerais vous raconter. Alors, je vous propose de commencer tout de suite en regardant la première des deux slides, qui est cette image-là. En fait, c'est l'image d'un cavalier d'échecs sur lequel est focalisée la lumière. Et quand vous avez de la lumière qui est focalisée sur un objet, cet objet projette une ombre. Et l'ombre, elle est intéressante parce qu'elle nous dit déjà un petit peu quelque chose de l'objet. On a un petit peu une idée de sa forme, on peut avoir éventuellement une idée de sa taille, même si ça dépend beaucoup de l'angle de la lumière, mais on peut déjà deviner deux, trois choses. Mais bien sûr, l'ombre, elle est extrêmement incomplète. En fait, on n'a aucune idée de la 3D, on n'a aucune idée de la couleur de l'objet, on n'a aucune idée de la matière de l'objet. Mais si vous partez de l'ombre, et vous vous déplacez un peu dans l'ombre, en fait, à un moment, elle va quand même vous ramener à l'objet. Parce que les deux, l'ombre et l'objet, sont intrinsèquement liés, bien sûr. Et en fait, à ce point de jonction entre l'ombre et l'objet, d'un coup, l'ombre reprend son corps, reprend sa substance, reprend, on va dire, sa 3D. Et là, on commence à comprendre exactement quel est l'objet qu'on avait en face de nous. Alors, vous allez me dire, quel est le lien entre ça et Christ? En fait, il y a quelques années, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé, qu'on trouve dans Colossiens 2, versets 16 à 17. Je vous le lis, c'est Paul qui écrit « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité ou le corps, d'après certaines versions, est en Christ. » Et donc, dans ce verset de Colossiens, en fait, Paul, il parle voilà, du manger et du boire. Ça fait un petit peu penser à toutes les lois de l'Ancien Testament par rapport aux animaux impurs et ce qu'on avait le droit de manger et ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Il parle des jours de fête, de la nouvelle lune, du sabbat, etc. Ce qui fait un petit peu penser à tous ces rituels et ces fêtes qu'on avait et ces cérémonies religieuses qu'on avait dans l'Ancienne Alliance. Et donc, si me permettez d'étendre un petit peu, d'extrapoler ce que dit Paul, en fait, il est un petit peu en train de dire, voilà, il y a énormément de choses dans cette ancienne alliance, dans toute cette loi, dans cet Ancien Testament, qui, en fait, sont des ombres des choses à venir. Et la réalité, le corps, la substance, en fait, elle est en Christ. Et je trouve que, d'une certaine manière, cette image, elle fonctionne assez bien, parce que on peut dire que, d'une certaine manière, dans la Bible, les projecteurs de Dieu sont sur Christ. C'est sur lui qu'est la lumière, c'est lui qui est vraiment au centre du projet de Dieu, au cœur de son histoire. Et donc, finalement, c'est assez beau de se dire que comme la lumière est focalisée sur Christ, eh bien, c'est normal, peut-être d'une certaine manière, qu'on retrouve partout, éparpillé dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, des ombres de sa personne, des ombres de son œuvre, des histoires comme ça qui préfigurent, qui annoncent, qui font référence à l'œuvre ou à la personne de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que Jésus dit lui-même. Jean 5, verset 39, je vous lis, « Sondez les Écritures, dit Jésus aux Juifs, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus se retrouve avec les deux disciples et qu'il marche, il y a ce verset génial où il dit « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. » Je pense que c'est la conférence qu'on aurait tous aimé avoir, que malheureusement on n'a pas, mais on sait, en tout cas à travers ce verset, que dans toute la Bible, en fait, il y a des choses qui regardent Christ, comme des ombres qui prennent leur corps, leur substance, leur réalité, une fois qu'on comprend l'histoire de Christ. Et donc, on devient un petit peu des chercheurs d'or, en fait. On est un petit peu à la recherche de ces ombres et d'essayer de comprendre ces histoires et en quoi ça fait référence. Et on a ce verset du psaume 119 aussi, hein. Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Moi, je me le suis beaucoup appliqué à ce thème aussi, de se dire, voilà, il y a plein de choses, de références, parfois cachées, parfois explicites, qui nous parlent de l'œuvre ou de la personne du Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit notre foi. Donc, je vous propose d'en regarder trois ensemble ce matin. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, et vous pourrez vous-même être les chercheurs d'or cette semaine. Trois histoires, deux qui sont explicitement, dont le lien est fait de manière explicite dans le Nouveau Testament, le rocher qui les suivait et le serpent des reins, et puis un qui est plutôt le parcours de Joseph, qui n'est pas forcément explicitement expliqué, mais qui, je pense, est quand même assez clair. Et peut-être juste avant de commencer, en fait, je me fais quand même la réflexion, quand on regarde ces ombres, je pense qu'il y a quand même un piège dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, c'est de jamais oublier que ces histoires, elles ont eu lieu dans un contexte, elles ont concerné des vraies personnes, dans la vraie vie des gens, et d'une certaine manière, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le fait de ne lire ces histoires plus qu'à la lumière de Christ. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ajoute une dimension magnifique. Enfin, c'est comme si ces histoires, d'une certaine manière, elles avaient une raison d'être intrinsèque, qui est le fait qu'elles ont été vécues par des personnes et que ça a le mérite, on va dire, on peut s'intéresser à l'histoire à son sens premier et essayer de creuser, de comprendre le contexte, etc. Et c'est comme si Dieu venait ajouter une petite dimension spirituelle supplémentaire qui vient vraiment enrichir l'histoire, mais qui ne vient pas la remplacer. Et donc moi, je vous propose de juste regarder cette dimension spirituelle, ou la référence, on va dire, à Christ, sans oublier, bien sûr, qu'il y a aussi le contexte, qu'on pourrait s'intéresser au sens, à la signification première de ces histoires. Donc, la première ombre qu'on va regarder, on la trouve dans Exode. En fait, j'aimerais bien vous proposer d'avoir quelques assistants lecteurs. Donc, Philippe, par exemple, si tu veux lire Exode 17, 1 à 7, et après, Maxime, je peux te demander de m'aider pour Nombre 20, 1 à 13. Donc, c'est un petit peu les deux histoires sur cette première ombre. Exode 17, 1 à 7, et Nombre 20, 1 à 13, et après, ben, je lirai n'importe.
Et toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Sin, selon leur traite, d'après les commandements de l'Éternel, et ils campèrent à Réphidim. Et il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent, donnez-nous de l'eau pour que nous buvions. Et Moïse leur dit, pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et là, le peuple eut soif d'eau, et le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mon bétail? Et Moïse cria à l'Éternel, disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël et prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et va. Voici, je me tiens de là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, devant les yeux des anciens d'Israël, et il appela le nom du lieu Massa et Meriba, à cause de la contestation des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas?
Merci.
Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni à boire, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi, ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meriba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux.
Merci beaucoup. Donc on a deux histoires qui sont vraiment quasiment identiques. En fait, dans les deux cas, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert, sans eau. Et donc c'est l'immense détresse. Enfin, ils vont mourir de soif, il y a des familles à nourrir, à abreuver, il y a du bétail, et il n'y a pas d'eau. Et donc il y a la tension qui commence à monter. Et Moïse est en danger, Aaron sont en danger. Et donc dans les deux fois, Moïse et Aaron vont crier à Dieu. Et Dieu va leur répondre. Et Dieu va faire sortir de l'eau du rocher pour abreuver le peuple et les sauver. Donc on a vraiment deux récits qui sont parallèles, qui sont quasiment identiques. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux récits. C'est que dans le premier récit, Dieu demande à Moïse de frapper le rocher. Et dans le deuxième récit, vous voyez, au verset 8, nombre 20, verset 8, Dieu dit « Prends la verge, réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, mais tu n'utiliseras pas la verge, vous parlerez devant leurs yeux au rocher. » La deuxième fois, Dieu demande à Moïse de parler au rocher et de ne pas le frapper. Il faut quand même s'imaginer la scène, c'est-à-dire que Moïse se retrouve devant le peuple, donc il vient d'être sous tension, Dieu lui a dit ça, ok, il arrive, il vient devant le peuple. Là, il dresse son bâton devant tout le monde et il leur dit quoi ? Il leur dit « Vous ferons-nous sortir de l'eau du rocher ?» Et là, il frappe le rocher. Et là, il ne se passe rien du tout. Silence de mort. Tout le monde regarde. Et là, il refrappe le rocher une deuxième fois. Et là, il y a de l'eau qui sort en abondance. Mais Dieu le prend à part et lui dit en fait « Parce que tu ne m'as pas obéi et parce que tu ne m'as pas sanctifié, aux yeux du peuple, et que tu as frappé au rocher au lieu de lui parler, tu ne pourras pas entrer dans le pays promis. » Moi, j'ai toujours trouvé cette sentence quand même très dure. Je veux dire, c'est pas comme si Moïse avait, fait un veau d'or ou tué quelqu'un. Il a juste frappé au lieu de parler, et en fait, non, c'est à cause de ça qu'il va pas pouvoir rentrer dans le pays promis. Et la raison, c'est que ça touche d'une certaine manière, à la gloire de Dieu. C'est que, en fait, Dieu n'a pas été sanctifié. Et donc, on touche du doigt, je pense, le fait qu'il y a quelque chose, on va dire, qui est un peu plus grand que simplement parler ou frapper. Et au passage, Moïse, il est décrit comme l'homme le plus doux de la terre. Et en fait, là, il pêche en perdant patience et en se mettant en colère. Et c'est à cause de ça qu'il ne va pas rentrer dans le pays promis. Je pense que c'est aussi, en filigrane, un rappel. Quand on se croit fort ou qu'on est doué dans quelque chose ou que Dieu a placé des compétences, et bien que ça ne soit pas là justement qu'on tombe et qu'on pêche. On en a parlé jeudi, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Il se trouve que là, Moïse, l'homme le plus doux de la terre, pêche en perdant patience et en s'énervant. Alors qu'est-ce que cette histoire a à voir avec Jésus ? En fait, c'est l'apôtre Paul qui fait ce lien de manière explicite. Dans la première épître aux Corinthiens, et je vous lis les quatre premiers versets, Paul dit « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, et que tous ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. » Et donc je ne pense pas qu'on aurait pensé forcément à faire ce parallèle si Paul ne l'avait pas fait. Mais en fait, le fait qu'il le fasse, du coup, on peut se dire « Ah, pourquoi le rocher, c'est le Christ ?» Pourquoi Paul lit cette histoire en disant « Non mais en fait, ça, c'est une ombre de Christ. » C'est quelque chose qui prend son sens avec l'histoire de Christ. Et alors, on peut un petit peu, on va dire, revoir, on va dire, la scène et se dire, bah, en fait, effectivement, comme le peuple, nous aussi, on était en train de mourir. On était dans cette mort bien réelle, pas physique, mais spirituelle. Et donc, ce désert aride, sans eau, dans lequel le peuple agonise, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait penser à notre situation de pécheur, à ce péché qui était, on va dire, source de mort pour nous. Et on est en train d'agoniser, on va dire, avant que Jésus nous sauve, on était en train d'agoniser à cause de ce péché qui nous sépare de Dieu, qui lui est la source de la vie. Et comme le rocher, c'est Christ qui nous sauve de cette mort, en nous donnant justement l'eau de la vie. Quand il va rencontrer la femme samaritaine au puits, il va lui parler de cette eau vive que lui donne, cette eau qui fait que la femme n'aura plus jamais soif. On sait que grâce à Jésus, on peut venir puiser avec abondance aux fontaines du salut. Et donc voilà, on retrouve vraiment ce parallèle où Jésus est comme ce rocher qui vient donner son eau en abondance pour nous faire vivre et nous abreuver et nous sauver de cette mort que le péché causait. Et ce qui est très beau, du coup, dans cette histoire, c'est que, justement, le rocher ne devait être frappé qu'une seule fois. Et ça, je pense que ça nous parle vraiment du fait que Jésus a été frappé une fois pour toutes, s'étant offert lui-même, nous dit la Bible dans Hébreux 7, verset 27. Il n'y a pas besoin que la croix ait lieu une deuxième fois. Et en fait, la deuxième fois, quand il se retrouve dans cette situation, il suffisait de parler au rocher. Et ça fait vraiment écho à notre situation aujourd'hui, où en fait, parce que Jésus a été frappé une fois, parce que le rocher a été frappé une fois, aujourd'hui, on peut venir en sa présence, on peut bénéficier de l'eau de sa parole, de l'eau de sa présence, d'être abreuvé de tous ses soins, simplement en lui parlant, parce qu'on est entré dans une relation et qu'il nous a, on va dire, ouvert l'accès à Dieu. Et donc, il y a quelque chose de très profond, en fait, dans ce que Dieu demande à Moïse. Quand il dit de ne pas simplement le frapper une deuxième fois. Il y a besoin d'être frappé une fois et ensuite, on va dire, la relation est ouverte et rétablie. Et il y a simplement, la communion est rétablie, il y a simplement besoin de lui parler. Et donc voilà, en faisant cela, Dieu préfigurait, il annonçait d'une certaine manière en filigrane ce que l'œuvre de Jésus allait être. Et donc c'est pour ça qu'on peut, et pour ça que Paul, me semble-t-il, voit vraiment dans ce rocher une image de Christ. Et donc c'est vraiment une grâce de savoir que dans nos déserts aujourd'hui, on peut simplement venir à Jésus et lui parler et se laisser abreuver par ses soins, par sa parole, par sa présence. Ça, c'était le rocher qui les suivait et qui, à deux reprises, les a sauvés, qui était une image de Christ. Si on continue l'histoire, nombre 21, on a un deuxième épisode qui est l'épisode des serpents brûlants. Nombre 21, versets 4 à 9. Manon, est-ce que tu aurais envie de lire ça pour nous, nombre 21, 4 à 9. Et on arrive dans la deuxième des trois ombres.
Ils partirent du mont Or par le chemin de la mer de Rizot pour contourner le pays des eaux. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit : Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vision. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardez le serpent en bronze, avait la vision.
Merci beaucoup. Et donc là, pareil, le lien avec Jésus, il est fait de manière explicite par Jésus lui-même au moment où il parle avec Nicodème. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Jean au chapitre 3. Je vous lis juste peut-être le verset clé, à partir du verset 12. « Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc là, encore une fois, c'est un lien qui est fait de manière explicite. Jésus se compare à ce serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert. Et donc, effectivement, si on va dire, on tire le parallèle, on voit de nouveau que le peuple est dans une situation de mort, de détresse, d'agonie. Et en fait, comme nous, de nouveau, nous mourons spirituellement à cause de nos péchés. Et surtout, l'origine du mal, à la fois les serpents et le péché, en fait, c'est la rébellion contre Dieu. Dans le cas du peuple et dans le nôtre, c'est vraiment le fait d'avoir voulu s'opposer à Dieu, de prendre sa place, qui est un petit peu à l'origine de ce mal. Et comme le serpent d'airain, Jésus a été élevé sur le bois de la croix pour nous sauver. On a Jean 12, verset 32 qui dit « Et moi, si je suis élevé de la terre, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et ce qui est très beau dans l'histoire du serpent d'airain, en plus de ça, c'est le mécanisme du salut. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse, il faut aussi, pareil, il faut s'imaginer la scène. Je veux dire, on a des serpents qui sont rentrés dans le camp, on a le peuple qui est en train d'agoniser. Il demande une solution à Moïse, et Moïse commence à couler de l'airain, à former un serpent, je ne sais pas combien de temps ça a dû prendre, mais un petit peu de temps forcément, à élever un serpent sur un bois, et à dire, en fait, il suffit de regarder le serpent pour être sauvé. Et là, je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment des gens dans le peuple qui se sont dit, mais c'est quoi cette mauvaise blague, quoi ? Enfin, tu te prends pour qui ? Enfin, en fait, c'est pas drôle. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu vois, c'est vraiment difficile à comprendre pourquoi cette approche-là. Mais ce qui est très beau dans l'histoire du serpent d'airain, c'est qu'en fait, un simple regard de foi suffit. Il n'y avait pas besoin d'œuvre, il n'y avait pas besoin de faire des choses, il n'y avait pas besoin d'ablution, d'imposition des mains. En fait, il suffit de croire cette absurdité d'une certaine manière, regarder ce serpent avec foi en se disant « je crois qu'en regardant, je serai sauvé ». Et on était sauvé. Et évidemment, avec la croix de Christ, en fait, c'est la même chose. Un simple regard de foi suffit. On croit qu'on n'a pas besoin de faire d'œuvre, on n'a pas besoin d'ablution ou de choses compliquées. Il suffit de croire, de regarder avec foi et d'être sauvé. Et de la même manière que ce serpent d'airain, je pense, a dû vraiment paraître comme une folie, quoi, une absurdité. En fait, la Bible nous dit aussi que la croix, c'est une folie aux yeux des hommes. Et que ce mécanisme-là de salut, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu inventer, c'est quelque chose qui est dur à accepter, qu'un Dieu s'incarne et vienne comme un serviteur, soit élevé sur une croix. Mais c'est comme ça que Dieu a prévu de nous sauver. Donc, pareil, on a de nouveau un parallèle qui est très beau, en fait, jusque dans, on va dire, le mécanisme du salut, qui nous parle un petit peu en filigrane, qui est un petit peu une ombre de comment Jésus nous sauve à la croix. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans cette histoire, c'est pourquoi Jésus se compare au serpent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous titille, en fait. Jésus, c'est le lion de Juda, c'est l'agneau de Dieu. C'est, je sais pas, on aurait pu inventer plein d'animaux, mais s'il y a quand même un animal qu'il fallait pas choisir, c'est le serpent. Parce que vraiment, le serpent, c'est le diable. Il est dans la Bible, il est même appelé le serpent ancien. Pourquoi Jésus lui-même s'autorise à s'associer en fait à ce serpent ? Eh ben, il me semble que là aussi, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas anodin. Et en fait, on a un verset qui est dur à comprendre, mais d'une profondeur immense et qui, je pense, explique un peu ça. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, je vous lis. « Celui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Et en fait, pareil, si on n'avait pas ce verset, je ne pense pas qu'on se serait autorisé à le dire, mais je crois que grâce à ce verset, en fait, on peut vraiment, sans le comprendre complètement, toucher du doigt le fait qu'à la croix, en fait, il y a vraiment une association entre Jésus, le Christ, et le péché. C'est-à-dire qu'il est, c'est, non seulement il porte nos péchés, mais en fait, il a été fait péché. Il y a une espèce d'association avec le, la nature même du péché. Et c'est pour ça que le péché est jugé à la croix de manière définitive. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en fait, Dieu s'est séparé de Jésus à la croix et qu'il y a eu ces 3 heures sombres. Parce qu'il y a une espèce d'association, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais en tout cas, la parole nous dit que Jésus a été fait péché. Et en fait, il y a aussi une forme de renversement qui se passe à la croix, parce que dans l'Épître aux Hébreux, on a ce verset qui dit que par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir sur la mort. Donc d'une certaine manière, c'est comme si à la croix, le diable est aussi battu à son propre jeu. C'est-à-dire que le diable, c'est celui qui avait le pouvoir sur la mort. En fait, à la croix, Jésus meurt, on va dire, entre complètement dans la mort, mais pour vaincre la mort. Et donc, cette espèce de renversement. Et comme le serpent de Nombre est en fait à la fois l'objet de la mort et le symbole de la guérison, en fait, à la croix, Jésus est aussi associé au péché, entre pleinement dans la mort pour justement nous guérir de la mort et nous libérer de la mort. Et donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment... c'est pas un hasard que Dieu ait demandé d'élever ce serpent. Et je pense que ça nous parle un petit peu de cette victoire de Jésus à la mort, de Jésus à la croix, et de ce renversement où, on va dire, il utilise l'arme même du diable pour, en fait, nous en libérer. Voilà. C'est dur à... Je ne sais pas exactement comment l'expliquer mieux. Je pense que c'est, on va dire, biblique à travers ces versets, mais ça reste un mystère et qu'on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, on a encore une fois une ombre qui a plusieurs niveaux, en fait. On a une métaphore qui est bien sûr incomplète, mais qui a beaucoup de niveaux, nous révèle quelque chose de l'œuvre de Christ, et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Voilà, en choisissant ce symbole, Dieu préfigure de manière très profonde la réalité spirituelle de ce qui va se passer à la croix, plusieurs milliers d'années plus tard. La troisième ombre que je vous propose de regarder ensemble, c'est le parcours de Joseph. Donc ça, c'est pas, on ne va pas lire toute l'histoire de Joseph, ce n'est pas explicitement donné dans le Nouveau Testament, mais c'est quelque chose, il me semble, qu'on peut voir de manière assez claire. Et là, c'est vraiment une ombre ou un type de Christ à l'échelle d'une vie entière. C'est vraiment la vie de Joseph qui témoigne de plusieurs caractéristiques de la vie de Jésus. Et donc, je vous propose de regarder en 6 points ce parallèle entre le parcours de Joseph et le parcours de Jésus. Joseph, déjà, c'est le fils préféré de son père. Ça, on va dire, d'un point de vue moral, c'est pas bien. Mais d'un point de vue de l'ombre, en fait, c'est très beau, puisqu'on sait aussi que Jésus est le fils unique, le fils bien-aimé du Père. Joseph, il est trahi par ses propres frères, qui sont jaloux, et qui le blessent, et qui le trahissent, et qui le vendent comme esclave en Égypte. Jésus a été trahi par son propre disciple, Judas l'Iscariote. Il a été trahi par les siens, les Juifs. Et on a ces versets, là aussi, de l'Ancien Testament, psaume 55, « Ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. » On entend... prophétiquement, Jésus qui parle, alors je l'aurais supporté. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Et Zacharie 13, on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Quelles sont ces blessures à tes mains, Jésus? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis, et non pas de mes ennemis. Jésus, comme Joseph, a été trahi par les siens, livré par les siens et tué par son peuple dans lequel il venait. Troisièmement, en Égypte, Joseph est innocemment jeté en prison, au fond d'un cachot. Jésus est innocent et pourtant il est livré aux Romains pour être cloué sur la croix. Au fond de ce cachot, qui est un petit peu le point le plus bas de l'histoire de Joseph, il se passe quelque chose d'assez étrange. On a deux personnes, deux prisonniers, un échanson et un panetier qui ont un rêve et Jésus sait leur interpréter ce rêve. Et je trouve assez fascinant qu'au point le plus bas de l'histoire de Joseph, en fait, on retrouve une histoire de pain et de vin. On a un échanson, on a un panetier, deux rêves, deux symboles, du pain et du vin, et en fait au point le plus bas de l'histoire de Jésus, à la croix où Jésus meurt. Son sang est séparé de son corps et c'est ce symbole de pain justement et de vin qui nous rappelle cela, et on l'a encore rappelé ce matin. Et finalement, le pharaon a un rêve et par l'intermédiaire de Joseph, interprète le rêve au pharaon. Et donc Joseph est sorti du cachot, il est revêtu de nouveaux vêtements, il est propulsé à la droite du pharaon comme second avec homme le plus puissant, on va dire, de toute l'Égypte. Et il est plein de gloire et d'honneur et d'autorité. Et donc on sait qu'après la croix, après les 3 jours passés dans la mort, Dieu a ressuscité Jésus. Il a obtenu un nouveau corps glorieux. Donc ce qui permet de dire ça, c'est que les disciples en même temps le reconnaissent sans totalement le reconnaître. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu transformé. Et surtout, on sait qu'il a été élevé à la droite de Dieu dans la gloire et que toute autorité, tout honneur, toute louange lui reviennent. Et puis le dernier point, il y en aurait plus, mais le dernier point pour ce matin, c'est que quand Joseph retrouve ses frères et invite toute sa famille à venir en Égypte, il va leur donner une consigne et il va leur dire, vous, quand vous retournerez dans mon pays et que vous verrez mon père, il leur dit, vous raconterez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, nous, le dimanche matin, de parler au Père de toute la gloire de son Fils. Quand on fait monter notre adoration, nos prières, notre louange, en fait, on peut raconter au Père la gloire du Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'objet de notre adoration et qui le sera éternellement. Et donc, dans ces deux histoires, on a ce magnifique V de la victoire, en fait, qui est décrit très bien dans Philippiens 2, versets 6 à 11, « Qu'il y ait en vous cette pensée qui a aussi été dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Là, on arrive au point le plus bas. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux. Écoutez que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc on a vraiment ce V de la victoire, on part de la gloire, l'abaissement, et Jésus qui est, on va dire, élevé de nouveau en gloire. Et le parcours, en fait, toute l'histoire de Joseph, c'est peut-être plutôt un W, puisqu'il y a d'abord la citerne, ensuite il devient adjoint de Potiphar, puis le cachot. Mais voilà, on a dans le parcours de Joseph aussi une image, un type en fait assez fort de quelque chose qui va prendre sa dimension spirituelle, sa réalité, sa substance dans l'histoire de Christ. Alors, j'aimerais terminer avec peut-être 4 réflexions. En fait, c'est bien beau tout ça, moi ça me touche beaucoup, mais à quoi ça sert ? En fait, à quoi ça sert de s'intéresser à ces ondes de Christ ? Est-ce que c'est un exercice qui est purement intellectuel ? Ou est-ce qu'il y a quelques applications pratiques ou des choses qu'on peut garder un petit peu pour nous cette semaine ? Donc, je vous propose 4 applications à garder et à emmener avec nous cette semaine, et 4 raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment intéressant de regarder ça. La première chose, c'est que ces ombres, elles nous aident à mieux apprécier le Seigneur et son œuvre. En fait, dans la plupart des cas, et en particulier dans les 3 cas qu'on a vus, c'est souvent des réalités. L'ombre, c'est une réalité physique. On a le désert, on a le rocher, on a de l'eau, on a des serpents, etc. Pour nous parler de réalités spirituelles qui prennent leur sens en Christ. Et donc parfois, je trouve que ces ombres, elles nous aident justement à apprécier de manière plus tangible ces réalités spirituelles. Par exemple, quand on s'imagine le peuple dans l'agonie des serpents et en train de mourir de soif ou de mourir à cause des blessures, en fait, je trouve que ça m'aide à mieux réaliser la gravité du péché, qui est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on visualise bien un peuple, on va dire, dans la détresse et dans la souffrance. Peut-être que parfois, on a du mal à visualiser la détresse et l'agonie dans laquelle on est quand on est pécheur et qu'on n'a pas Christ. Donc, ça aide un petit peu à illustrer ça. De la même manière, le fait qu'il suffisait de parler au rocher pour qu'il nous donne de l'eau, moi, je trouve que ça nous aide à réaliser le miracle que c'est d'avoir accès auprès de Dieu dans une relation rétablie. En fait, De la même manière que c'est miraculeux de parler à un rocher qui nous abreuve, en fait, il y a quelque chose de vraiment d'exceptionnel, il y a quelque chose de miraculeux dans le fait qu'on ait accès auprès de Dieu, qu'on puisse venir sans avoir besoin de faire 36 000 choses et de simplement lui parler. Et pareil, de voir Joseph élevé à la droite du Pharaon, et bien peut-être que ça nous aide aussi à plus apprécier de manière tangible en fait, la gloire de Jésus, qui est encore plus grand que ça, plus grand qu'un Pharaon qui avait tellement de pouvoir. Ça, on le conçoit bien, on le comprend bien, et ça nous aide peut-être à se dire, ça c'est une borne inférieure de la gloire que Jésus a au ciel. Donc, ça nous aide, je pense, un petit peu à mieux apprécier certains aspects de Dieu, du Seigneur Jésus et de son œuvre. Le deuxième point, c'est que je trouve que c'est une magnifique illustration de la cohérence du message biblique. Et du coup, je trouve que c'est un argument en faveur du fait que la Bible est vraiment d'origine divine. La Bible, c'est un livre qui contient elle-même 66 livres qui ont été écrits par, plus de 40 auteurs sur 1500 ans. Et bien, le fait qu'on retrouve sur 1500 ans, à travers 40 auteurs, partout, des références comme ça à l'histoire de Christ, en fait, c'est un témoignage très fort de la cohérence du message biblique. C'est pas chacun qui fait référence à ces trucs, c'est on va tous dans le même sens, et ça pointe, on va dire, vers le message de Christ. Et une illustration, une autre, donc c'est ma deuxième slide, une autre illustration qui montre ça, ça va un petit peu au-delà des ombres, mais ça contient les ombres, c'est des gens qui se sont amusés à lister, donc ici, une barre, c'est un chapitre de la Bible. Vous avez sur l'axe des abscisses ici, les chapitres de la Bible. Et un trait entre deux chapitres, c'est une référence entre deux chapitres. Donc une référence, en fait, honnêtement, je ne sais pas exactement comment ils ont compté. Mais ça peut être quand un verset se cite, ça peut être quand il y a des références implicites. Ça contient évidemment les ombres. Et en fait, ça, c'est une image que je trouve vraiment fascinante parce qu'elle nous montre à quel point le message biblique et cohérent, quoi. Que en fait, à travers, s'il y avait eu un seul auteur, ça aurait déjà été exceptionnel. Le fait qu'il y ait 40 auteurs et 1500 ans, en fait, pour moi, c'est une preuve vraiment forte de l'existence d'un auteur divin qui a pensé tout ça, qui a prévu tout ça, qui fait que les choses se répondent, s'intriquent et qu'elles sont cohérentes, en fait, qu'elles portent un même message. Et donc, évidemment, les observateurs auront repéré le psaume 119, qui est la grande barre au milieu. Et donc, ils ont compté 63 800 références entre livres de la Bible. Donc voilà, ces ombres, je trouve que c'est une illustration de la cohérence du message biblique et un argument très fort en faveur qu'il y a un Dieu derrière, un esprit qui a inspiré tous ces auteurs pour disposer comme ça, dans l'histoire, des références à Christ. L'avant-dernière raison, c'est que ces ombres, en fait, elles nous rappellent aussi de manière très forte que Christ est au centre du projet de Dieu. Christ est au centre du projet de Dieu. Depuis le début, Dieu a en tête ce plan merveilleux d'envoyer son Fils en humble serviteur pour justement se donner et nous sauver. Et donc ces ombres, elles parlent de ça, parce que c'est comme si Dieu avait, comme on l'a dit, disposé, on va dire, dans toute l'histoire du peuple, des références à ce grand projet qui est son projet de toute éternité. Et donc le fait que Christ soit au centre du projet de Dieu, en fait, ça nous interpelle, parce que on est vraiment invité à se demander, est-ce que Christ est au centre de mes projets à moi? Est-ce que Christ est au centre de ma vie? Si Christ est au centre du projet de Dieu, et ben à combien plus forte raison il doit être au centre de ma vie et de mes préoccupations? Et je trouve que c'est bon, parfois, de se rappeler de la radicale centralité de l'œuvre de Christ dans nos vies. Pour moi, vivre, c'est Christ, dit Paul. Et on l'a lu dans Galates jeudi, qu'il ne m'arrive de me glorifier en rien d'autre sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette radicale centralité de Christ, on la voit à travers ses ombres, puisque, on va dire, Dieu avait prévu ça depuis toujours, et ça nous invite aussi à nous-mêmes nous rappeler ça, nous dire, mais en fait, c'est vraiment ça qui compte. C'est vraiment ça le plus important. Et puis, pour finir, je pense qu'on est aussi tous appelés à être des ombres. Bon, en fait, mince, parce qu'on est appelés à être la lumière, plutôt. Et évidemment, on ne va pas tout confondre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Je pense que Dieu se réjouit vraiment quand il retrouve dans nos vies des aspects de Christ, de son œuvre et de sa personne. Et alors c'est un petit peu différent parce que dans ce cas-là, c'est plutôt des choses qui vont préfigurer, qui vont annoncer en filigrane l'histoire de Jésus, alors que nous, c'est plutôt une conséquence d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Mais en fait, d'une certaine manière, ce qui est beau dans le parcours de Joseph, c'est aussi qu'on y retrouve des caractères de Jésus, son humilité, la manière avec laquelle il se soumet au plan de Dieu. Et ça, je pense que nous aussi, on est vraiment appelés, on va dire, à vivre ça, à ce que nos vies traduisent, à ce que nos vies reflètent, à ce que nos vies soient remplies de références à des caractères de Jésus, à des caractères de son œuvre, à des caractères de sa personne. Et typiquement, dans les épîtres, on a beaucoup de versets qui nous encouragent par rapport à la souffrance, de se dire, en fait, quand on porte en nos corps les marques du Seigneur. Paul, il dit, je porte en mon corps les marques du Seigneur. C'est comme si, on va dire, il associait ce qu'il vivait à la souffrance de Jésus. Ou alors Pierre qui dit, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous. Donc même dans la souffrance, de se dire, en fait, cette souffrance, si elle est vécue de manière à refléter quelque chose de Christ, en fait, c'est magnifique, même si c'est difficile. Et pareil, quand Paul nous encourage dans Philippiens qu'il y ait en vous cette même pensée qui a été dans le Christ Jésus, il nous invite justement à manifester cette pensée d'humilité. Donc, quatre applications à mon sens, je pense qu'elles nous aident à mieux apprécier le Seigneur et son œuvre. Je pense que c'est une magnifique illustration de la cohérence du message biblique. Ça nous rappelle que Christ est au centre du projet de Dieu, donc a fortiori, qu'il soit au centre de nos vies et de nos préoccupations, et puis qu'on soit aussi appelé à justement être des petites ombres ou des lumières, ou en tout cas à refléter dans notre quotidien, dans notre semaine, dans nos vies, des caractères de Christ et de son œuvre.